grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Un jour, ma mère a déposé une caisse de livres dans ma chambre d'enfant. Je me souviens d'un gros ouvrage illustré à la tranche rouge et dorée. C'était Le Prince et le Pauvre de Mark Twain, dans lequel je plongeais immédiatement avec délectation. Ce fut l'un de mes premiers enchantements de lecteur. Avant de découvrir Le Club des Cinq, Fantomette ou Les Six Compagnons, ces vertes lectures célébrées par Michel Tournier, celles qui inoculent à vie le virus de la lecture. Comment expliquer que certains enfants éprouvent un plaisir infini à lire, alors que d'autres, a priori, s'ennuient à cette idée? Comment leur transmettre le plaisir de la lecture dès la maternelle? Il n'y a pas de recette miracle, bien sûr, mais quelques pistes qui peuvent vous aider efficacement. Avec nous ce matin, le grand linguiste Alain Bintolila. Merci. Et la rédactrice en chef de J'aime lire, Delphine Solière.
Bonjour.
Comment vous y prenez-vous pour faire lire vos enfants et petits-enfants? Quelles sont les lectures qu'ils plébiscitent? Êtes-vous désespéré de ne pas arriver à leur transmettre ce plaisir? Dites-nous également quelles sont les lectures d'enfance qui vous ont procuré le plus de plaisir. Intervenez au 01 45 24 7000 sur le site et l'appli France Inter, sans oublier bien sûr la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Qui lisait Platon déjà à l'âge de 4 ans,
bien
paraît-il.
En
grec ancien. Quelle est votre ordonnance philosophique tout à l'heure vers 10h35?
Eh bien, un traitement de pointe, peut-être un peu expérimental, qu'on est allé puiser dans les études menées par Umberto Eco, grand écrivain et aussi grand spécialiste de la lecture.
Et grand lecteur. À tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebi.
Comment donner envie de lire aux enfants et aux adolescents? Pour répondre à cette question, deux invités. Bonjour Alain Bintolila.
Bonjour.
L'un de nos plus grands linguistes. Vous enseignez à l'Université Paris-Descartes. Vous êtes le créateur de La Machine à Lire et vous publiez chez First un ouvrage absolument formidable, La Joie d'Apprendre Ensemble, 150 activités ludiques pour cultiver le langage et le plaisir de lire. Deux mots me frappent dans le sous-titre de votre livre, ludique et plaisir.
Alors, deux mots vous frappent, oui, parce qu'ils sont mis en avant. Mais personnellement, je suis pour un équilibre entre le plaisir et le labeur, parce que apprendre à lire, c'est quand même un labeur. Et il faut que le bout du tunnel soit suffisamment visible pour que ce labeur soit légitimé par des promesses. Promesses de... Vous disiez tout à l'heure, vos premières lectures, Le Prince et le Pauvre, exactement le même livre que moi.
C'est vrai?
Ah oui, absolument. Ah ben, c'est Le Prince
grand,
et le Pauvre.
Le plus grand
ma
des
première
hasards.
Lecture, c'était Le Prince et le Pauvre.
Ah bon.
Mais c'était l'entrée dans un monde particulier qui était le monde proposé par l'auteur et créé par le lecteur. Donc, tout à l'heure, vous avez interrogé votre... consoeur.
Laetitia Gaillet.
Voilà, et vous lui avez dit comment vous faites, et elle a dit, moi je fais le film. Et je lui dirais, elle n'est plus là, mais si elle m'entend, je lui dirais, attention, le film appartient à l'enfant. Le film n'est pas donné, parce que la vraie question, c'est que à la lecture d'un livre, ou d'un texte, d'une histoire, le film soit singulier. Chacun va se faire son film. Prenez tous les livres de J'aime lire, chacun des livres va, prenez le même livre, et chacun des lecteurs va avoir un film particulier. Et à partir de ce moment-là, la vraie question, c'est que si chacun a le droit d'imaginer, tous ont le devoir de respecter ce que l'auteur a dit. Et donc, il y a de la bienveillance, de l'accueil, et en même temps, il faut qu'il y ait de l'exigence, c'est-à-dire lire, ça n'est pas n'importe quoi.
Bonjour Delphine Solière.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef de mes premiers J'aime lire et de J'aime lire. Vous êtes la responsable du pôle moins de 12 ans chez Bayard Presse. Présentez-nous en deux mots J'aime lire, né en 1977 et qui a accompagné des générations de lecteurs comme Thibaut de Saint-Maurice.
Un poil plus de 40 ans. J'aime lire, c'est un projet un peu fou à l'époque, qui était de se dire, on voudrait toucher tous les enfants, même ceux qui n'aiment pas lire. Donc finalement, le titre de ce magazine était une forme de provocation pour essayer de proposer des histoires qui soient des vraies histoires, mais qui soient le plus faciles à lire pour des débutants lecteurs.
Alors, vous publiez les résultats d'une grande enquête, J'aime lire, avec l'Institut de sondage Harris Interactive, réalisé auprès des enfants de 7 à 11 ans. Bah oui, les enfants aiment lire.
Oui, il y a 84% des enfants qui aiment lire. Il y a une énorme angoisse des parents, mais en réalité, les enfants qui sont rentrés dans la lecture savent tout à fait en percevoir les bénéfices.
Quels sont les lieux privilégiés de la lecture ?
Alors ça va être très variable selon les enfants, les endroits où ils vivent et selon les habitudes de lecture qui sont dans la famille. Parce que y a des enfants qui vont lire dans le cadre scolaire, il y a des coins lecture qui se développent de plus en plus, et donc ça c'est un lieu intéressant. Mais le lieu, je pense, le premier, c'est quand même la chambre. C'est le lieu de l'intimité. Alors si vous regardez des enfants en train de lire, hein, surtout des débutants, vous verrez qu'ils sont dans n'importe quelle position, sauf celle dans laquelle nous sommes en ce moment, c'est-à-dire assis. Voilà, donc l'acte de lire, c'est à la fois un acte intellectuel, mais c'est aussi un acte qui met en jeu tout le corps.
Alors, ils lisent surtout le week-end à 89%, le soir avant de dormir, 85%. Ils lisent beaucoup à la bibliothèque également.
Oui. Ça, c'est une chance qu'ils ont, que leurs enseignants, éducateurs, parents les emmènent fréquenter ces lieux où ils ont le choix, en fait. C'est ça l'intérêt aussi d'une bibliothèque, c'est qu'on peut choisir ce qu'on va lire et puis on peut reposer les livres dont on ne veut pas et en prendre un autre.
Ça existe, Alain Bintolila, des enfants qui n'aiment pas lire réellement. Que nous disent les études sur le sujet ?
Je crois que, enfin, j'allais dire par définition, parce qu'il est humain, un enfant communique à l'oral, il communique à l'écrit, c'est-à-dire qu'il reçoit de l'autre et il donne à l'autre. C'est le propre de l'homme. Et c'est pourquoi c'est tellement important. C'est pourquoi il faut se battre. Pas se battre pour obliger, mais se battre pour que cet amour de la lecture, ce plaisir de la lecture et cette précision de la lecture ne se perdent pas. C'est vraiment très important. C'est nous. C'est nous les hommes, hein, et pas les grands singes bonobos, disons-le carrément, hein, nous sommes des gens du verbe et des gens de l'écriture et de la lecture.
Alors transmettre le plaisir de la lecture, Alain Bintolila, ça commence bien avant que l'enfant ne sache lire.
Alors ça commence bien avant que l'enfant ne sache lire. D'abord il faut dire une chose, et c'est vraiment très important, et je pense que nous serons vraiment d'accord là-dessus. La maîtrise du langage, la richesse du vocabulaire que l'on possède, notamment, mais aussi la conscience de l'organisation des phrases. Une phrase, ça n'est pas « mon père, le vélo, son voisin, il a volé ». Non, la phrase qu'il rencontrera dans l'écrit, c'est une phrase peut-être un peu plus banale, mais qui est « le voisin a volé le vélo de mon père ». Voilà. Pour certains enfants, c'est une syntaxe qui est complètement étrangère à leurs habitudes. Et donc, l'importance de maîtriser le langage au mieux, c'est essentiel pour l'apprentissage de la lecture. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, en fait, il y a les enfants, on ne peut pas dire qu'il y a des enfants qui n'aiment pas lire d'emblée. Il y a des enfants qui ont peur de lire. La lecture est une peur parce que un livre est effrayant. Pourquoi un livre est effrayant ? Mais vous comme moi, tous, quand nous ouvrons un livre nouveau, une petite pointe d'angoisse nous saisit. Toute lecture nouvelle est inquiétante. Inquiétante pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas. Et parce que ce que l'on ne sait pas effraye. Et donc, si vous voulez, c'est ce que j'appelle le moment de l'abord qu'il faut arriver à apprivoiser. Rassurer l'enfant sur le fait que, oui, on ne sait pas, mais peu à peu, on va savoir. Sauf que, pour savoir, il va falloir bosser. Il va falloir travailler un peu. Et petit à petit, l'apprivoisement du livre fait qu'on aura moins peur.
Delphine Solière.
Alors, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est dans votre question, c'est transmettre le goût de la lecture. Donc, si on demande ça à des parents, il se trouve qu'il y a des parents qui, eux, n'ont pas forcément ce goût ou qui ont cette peur de la lecture. Je dirais que c'est plus facile de transmettre quelque chose qu'on aime soi-même. Donc là, on peut vous donner des conseils par rapport à ce que vous êtes comme parent et s'adapter à vous, votre mode de fonctionnement. Mais quand vous n'aimez pas lire ou que vous avez peur vraiment de la lecture, il y a des parents qui ont tellement peu d'habitude de lecture que pour eux, c'est à la fois une injonction hyper importante pour l'école parce qu'il faut savoir lire. On peut pas faire de bonnes études si on sait pas lire. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on va faire alors que soi-même, on lit pas? Et on a quand même assez peur. Donc moi, ce sont ces parents-là aussi qui m'intéressent et que j'ai envie de rejoindre en leur proposant voilà, tout un tas de choses, mais en partant aussi d'eux et d'essayer de comprendre pourquoi eux-mêmes ont gardé cette peur de l'enfance.
Alain Matelula.
Oui, c'est exactement ça, mais deux, trois chiffres, pardon, mais bon, et qui sont intéressants. L'illettrisme en France, c'est grosso modo entre 9 et 10% de la population de plus de 15 ans. J'insiste sur le fait que l'illettrisme, ça n'est pas l'analphabétisme, c'est-à-dire que c'est une difficulté inégale à lire un texte de plus de 10-15 lignes et à en tirer parti. Voilà, on pourrait dire les choses comme ça sans problème. Mais si la question c'est de lire long, c'est-à-dire de passer la barre pour aller avancer dans un livre 10 pages, puis 10, puis 10, puis 10, alors la question, c'est qu'il y a à peu près 25 à 26% de la population que l'on appelle des peu lecteurs. C'est-à-dire ceux qui n'ouvriront jamais un livre par peur ou par difficulté due à un apprentissage compliqué.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, moi je suis frappé aussi, alors avec mes enfants, mais surtout mes élèves, que j'ai des élèves de terminale, du fait que parfois ils ont des pratiques de lecture qu'ils ne reconnaissent pas eux-mêmes comme des pratiques de lecture. J'ai rencontré mes classes cette semaine, je leur ai demandé une petite fiche de renseignement, comme on fait toujours, ouais. Mais pour qu'ils se présentent, et je leur ai demandé quel est le dernier livre que vous avez lu. Et plusieurs fois, j'ai eu la question de dire, est-ce que la BD, ça compte ? Est-ce que j'ai lu Naruto, un manga? Est-ce que ça compte? En fait, j'ai l'impression que certains aussi lisent davantage qu'ils ne peuvent le même le croire parce qu'il y a des représentations aussi sociales et scolaires de la lecture. Et être capable de lire, par exemple, les 72 volumes du manga Naruto, ça suppose aussi des compétences de lecteur, des compétences encyclopédiques, des compétences intertextuelles, etc., qui sont les mêmes que quand on lit La Recherche du Temps Perdu. Alors, avec une question, justement, une question d'hiérarchie ou pas.
Non,
mais
non.
En tout cas, est-ce qu'on peut étendre comme ça le registre de la lecture et dire aux gens, en fait, n'ayez pas peur de lire autre chose que les romans dans les rayons de librairie, etc.
Bien sûr, n'ayez pas peur de lire autre chose que le roman où les lignes se suivent les unes après les autres, où les pages se succèdent, évidemment, évidemment. Mais il faut quand même bien comprendre que lire un livre, ça n'est pas lire une bande dessinée. Ça n'est pas moins bien, ça n'est pas mieux. C'est juste que ça n'est pas pareil. Et donc, surtout ne pas enfermer un enfant, ni dans la lecture stricte d'un livre où il n'y a que de l'écriture, et non plus que dans l'habitude. Parce que si vous voulez, vous le savez très bien, comme moi, c'est-à-dire qu'une bande dessinée, ça demande une habileté très particulière de liaison entre l'image, le texte, etc. Ce sont des phrases, des textes courts en général. Et donc, ça n'est pas, encore une fois, moins bien. C'est juste que c'est quelque chose de différent. Donc, il faut cultiver les deux.
Delphine Solière.
Alors, je vous rejoins complètement. Ce que je trouve aussi intéressant, ce qui n'est non pas de mettre au même plan, mais de dire déjà de faire comprendre à un enfant que, en fait, il lit. Déjà, lui faire comprendre que l'acte de lire, il le possède. Et après, de lui proposer des fictions. Parce qu'en fait, lire un livre, c'est quoi? C'est rentrer dans le monde imaginaire d'un auteur. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est créer des images qui vous sont propres. Et ça, c'est que quand on lit avec lui, tout petit, qu'on peut commencer à l'initier à ce plaisir.
Allez, comment transmettez-vous le plaisir de la lecture à vos enfants, aux petits-enfants, 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Claire Destacan, Clara Marliou et Julia Macarès m'ont aidé à préparer cette émission et c'est réalisé par Stéphanie Texier.
You are not an open book. I can't do nothing about that. But I'm worried, I'm overdrawn. What am I doing up? Put the witching up. Down a book, turn on the TV. It's 2 a.m, there's nothing on. I just need something to focus on. Things are going to slide out of control. I hope that you come back. When I close my eyes, the thought of you denies me the rest and repair that I need. The longer you are far from me, the more I drift away. I didn't see the warning signs, I was falling through the cracks. Oh, 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 oh.
The Rakes, Open Book.
Non, chérie, tu crois pas que ce serait bien que tu lises un peu plus et que tu regardes un peu moins la télévision?
Grand bien vous fasse.
Non mais je sais pas, moi, à ton âge, j'avais déjà lu Balzac, Victor Hugo, Flaubert, enfin tous les grands noms de la littérature.
Sur France Inter.
Un peu comme Thibaut de Saint-Maurice, 10h22, comment donner envie de lire aux enfants et aux adolescents? Toutes vos questions et témoignages au 01 45 24 7000. Alain Bentolila, je rappelle que vous êtes linguiste et que vous publiez La joie d'apprendre ensemble. Delphine Solière, rédactrice en chef de J'aime lire et Mes premiers J'aime lire. Est-ce que le plaisir de lire, le goût de la lecture, ça dépend uniquement du capital social, culturel, hein, pour parler comme le sociologue Pierre Bourdieu, des parents, de la famille?
C'est facilitateur, il ne faut pas se mentir. Si on vit dans un contexte familial où la lecture est très valorisée, on voit ses parents lire le week-end ou le soir, bah forcément, ça donne une valeur différente à l'écrit. Après, c'est la rencontre avec un texte qui donne envie de lire. Donc, toute rencontre entre un enfant et une histoire peut lui donner envie de lire, même si dans son monde, il y a très très peu de livres. On voit ça, moi je vais beaucoup en Afrique, parce qu'on a un magazine qui s'appelle Planète J'aime lire, qui est pour les enfants africains. Ce sont des enfants qui ont très très peu accès à l'écrit, surtout quand on va dans des villages un peu lointains. Mais quand vous arrivez avec une caisse de livres, ils se jettent dessus, franchement. Hein.
Mais comment expliquer, Alain Bentolila, que ben là, on est dans une famille où il y a beaucoup de livres, et pourtant les enfants n'ont pas ce plaisir de la lecture? Ça arrive souvent, c'est des témoignages que j'ai eus là depuis hier, des collègues journalistes qui me disent, il y a plein de livres à la maison, ça déborde de livres, et pourtant on n'arrive pas à transmettre ce plaisir à nos enfants.
Il ne suffit pas de donner un livre pour que l'enfant ait envie de lire, parce qu'il ne sait pas ce que c'est que lire. Je veux dire, un enfant ne lira que s'il a conscience de ce que c'est que lire, c'est-à-dire cet acte exceptionnel qui invite à une liberté formidable d'imagination et qui pourtant nous impose un respect particulier pour les mots, le texte et l'auteur. Ça, c'est fondamental parce que vous avez deux façons de mal lire. La première façon de mal lire, qui est de plus en plus courante, c'est faire semblant de lire, c'est-à-dire inventer. Deux mots là-dessus parce que ça va vous intéresser. On a fait une enquête qui était sur des jeunes en situation de difficulté de lecture pendant les 3 jours. Et on leur a donné un texte qu'on avait écrit exprès pour eux et on leur a dit simplement, un par un, hein, de façon individuelle, qu'est-ce que raconte ce texte ? C'est un petit texte qui raconte l'histoire d'un type qui rentre dans une pharmacie, qui demande des produits et qui le pharmacien refuse, etc. Et puis finalement, ils s'entendent, etc. Bon. Et on pose la question, 700 sur 1000, on a venu 1000 les uns après les autres, ça a duré 6 mois, 700 sur 1000 nous racontent une histoire qui n'avait absolument rien à voir avec ça, mais où on vous retrouvait le mot pharmacie, produit, police. C'est-à-dire que nous avions affaire à des gens qui savaient que lire, c'est faire du sens, sauf que ils faisaient du sens avec rien. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils étaient incapables de lier les mots entre eux tout au long de l'histoire, ou est-ce que c'était parce qu'ils pensaient que lire c'était ça? Je peux pas vous le dire. Mais on est passé d'un illettrisme qui était un illettrisme de labeur où on syllabait douloureusement mot après mot à un illettrisme où on invente et on ne tient plus compte du texte.
Et oui, vous insistez dans votre livre, il faut lire des histoires et non pas raconter. Vous le rappelez à plusieurs reprises, il est important de lire des histoires à ses enfants, notamment entre 3 et 5 ans, avant qu'ils ne sachent lire, et puis ensuite le guider grâce à des questions. Il faut faire de la maïeutique, accoucher ses enfants, voilà, lui poser des questions. Et puis surtout, vous le dites bien, lire une histoire à son enfant, ce n'est pas favoriser l'endormissement au moment du coucher. C'est plutôt éveiller l'esprit.
Exactement. C'est éveiller l'esprit, et maïotique accoucher le sens. Comment est-ce qu'on accouche le sens? On accouche le sens parce que c'est le lecteur qui va accoucher. Sauf que quand on le reçoit, on doit lui renvoyer quelque chose. C'est-à-dire si dans l'exemple que je donne du petit poussé, il fait complètement fausse route en pensant que la femme du petit poussé a ficelé les enfants pour que l'ogre les mange, alors que le texte dit « Ah, mes pauvres enfants, vous êtes dans la maison de l'ogre, je vais vous cacher pour que l'ogre ne vous mange pas », il faut savoir le dire. Il faut savoir lui dire « Mais non, regarde ce que celui qui a écrit l'histoire a dit ».
Mais attention, poser des questions à son enfant après avoir lu l'histoire, c'est pas l'évaluer, le noter.
Non, pas du tout.
C'est pas du tout ça.
Rien à voir. On accueille, c'est la maïeutique, on accueille les propositions, on ne dit rien. Et une fois qu'on les a accueillies, alors on va lui dire « Tiens, on va vérifier quand même ce qu'il y a dans le texte ».
Delphine Solière.
C'est un exercice que nous faisons, nous, tous les mois avec J'aime lire. On va lire les histoires avant de les publier dans plusieurs classes, dans des classes relais de niveaux sociaux d'ailleurs assez différents. Et à chaque fois, à la fin de chaque chapitre, on leur demande ce qu'ils ont compris de l'histoire ou ce qu'ils ont compris des personnages. Et c'est absolument extraordinaire de les voir rajouter des mots finalement sur les mots de l'auteur pour construire un personnage, pour parfois nous montrer des choses qu'on n'a pas nous forcément vues sur le caractère soit rigide, soit extrêmement drôle de tel ou tel personnage. Donc mettre des mots sur des mots, c'est vraiment une expérience extraordinaire pour eux.
Et puis plus tard, entre l'âge de 6 et 8 ans, on peut demander à l'enfant de raconter le film qui s'est fait dans la tête.
Absolument.
Sans trahir le texte.
Voilà, au début, l'enfant a besoin qu'on l'aide. C'est-à-dire qu'on lui demande quels sont les personnages, qu'on voit avec lui quels sont les personnages, qu'est-ce qu'ils ont fait au début, au milieu, à la fin, etc. Et puis, à un moment donné, la seule question qu'on pose, c'est quel film tu t'es fait dans ta tête. C'est ce qu'on appelle en linguistique la fonction imageante. La fonction imageante, c'est cette capacité que nous avons eu tous les deux avec le prince et le pauvre, de se faire des images à partir des mots d'un autre. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose d'absolument indispensable. Donc, à un moment donné, on arrête les questions et on ne pose que cette grande question, et là, on ouvre sur cet accueil des propositions.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, et puis il y a une question aussi qui, je trouve, revient pas mal dans les discussions entre parents, ou quand on a des jeunes enfants ou des ados. C'est aussi, bon, lire bien sûr, mais lire quoi? Certains sont inquiets, ça peut m'arriver aussi parfois, de dire, oui, mes enfants, ils lisent, c'est bien, Mais alors, ils ne lisent que un certain type de romans ou d'histoires qui sont maintenant très aussi formatés et marketés en fonction des âges. Et on dit c'est un peu dommage parce qu'ils n'acceptent de lire que des histoires de magiciens, que des histoires de cabanes et d'enquêtes, que des voilà. Et il y a ce souci aussi parfois que certains peuvent avoir de dire c'est bien mon enfant il lit, mais il lit que un seul type d'histoire.
Alors vous avez raison. C'est vrai si vous voulez que l'idéal. C'est ce qu'on peut appeler la polyvalence, c'est-à-dire lire avec autant d'efficacité une fiction, un roman policier, mais aussi un énoncé de mathématiques, mais aussi un texte scientifique, etc. Je dirais, allons-y doucement. Je crois qu'il faut commencer par la fiction, les histoires. Là-dessus...
J'aime lire.
Je rends vraiment hommage à J'aime lire. C'est vrai, c'est formidable. Les histoires où on peut effectivement se créer un univers. Mais effectivement, il faut pas s'enfermer dans cet univers-là. Et petit à petit, c'est aux parents de dire bon ben tiens aujourd'hui on va lire quelque chose sur la culture des haricots par exemple.
Pourquoi pas Delphine.
Alors il y a évidemment des collections qui sont marketées, c'est évident, mais je pense qu'il y a quand même aussi ce que Maria Montessori appelait les périodes sensibles, c'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie de l'enfant où ils ont besoin de se sécuriser avec un certain type de livre ou de lire les mêmes livres que les copains, particulièrement à l'âge du collège. C'est vrai qu'il y a des modes, mais ces modes aussi, ça leur permet de se mettre dans un groupe social et de pouvoir échanger sur tel ou tel type de livre. Et il y a des livres qui échappent aussi au marketing. Hein.
Bonjour Nathalie, bienvenue.
Oui, bonjour.
D'où appelez-vous Nathalie ?
De Lyon.
Alors vous avez deux enfants.
Oui.
Et donc ?
Deux enfants, 3 ans d'écart. Pour placer un peu le contexte, moi je suis une grande lectrice. Mmh. Je fais de la lecture bénévole dans un EHPAD de temps en temps. Voilà, la lecture, les livres, c'est partout chez moi. Ça a toujours été. Mes enfants, je les ai élevés de la même façon. Le premier et le deuxième, lecture le soir. Des petites lectures, des contes, mais aussi des BD après, des choses drôles. Enfin, tout ce qui pouvait les éveiller. On allait à la bibliothèque le mercredi ensemble. Ensemble, c'est-à-dire voilà, écouter une conteuse, ouvrir des livres ensemble, les choisir, etc. Ils avaient un petit coin dans notre meuble bibliothèque à eux. Et très vite, j'ai vu la différence entre l'un qui prenait des petits livres et lisait à ses nounours qu'il avait mis en rang devant lui, l'autre qui les triait par taille, sans jamais les ouvrir. Maintenant, ils ont 20 ans de plus. J'en ai un, ils ont tous les deux eu leur bac et fait des études supérieures, ça c'est pas le problème, mais j'en ai un qui lit toujours. Qui dévore toujours, d'une façon éclectique, on en parle, on échange, etc. Et l'autre, rien. Mais rien, c'est-à-dire même des choses qui l'intéressent. Je peux lui acheter quelque chose, il est dans la biodiversité, on parle beaucoup de choses, et il y a beaucoup de livres, etc. Non, il me dit, envoie-moi les en vidéo, si tu peux. Et j'ai l'impression qu'il a plus une veille. Alors il est musicien. Je me dis aussi, est-ce que ça peut pas être ça qui a fait qu'à un moment, il a viré, il a abandonné la lecture avec ses yeux et il veut maintenant uniquement voir ou entendre. Je ne sais pas, je ne comprends pas.
Notre linguiste Alain Vintolula.
C'est très difficile.
C'est mystérieux.
Oui, c'est assez mystérieux. Cela étant, est-ce que vous avez établi avec l'un et l'autre à propos de la lecture, la même explicitation de l'acte. C'est-à-dire que, vous voyez, il faut qu'un enfant, on lui apprenne, je le disais tout à l'heure, ce que c'est que lire. Qu'est-ce que c'est que lire ? Et s'il ne sait pas ce que c'est que lire, y compris avec la pointe d'angoisse dont je parlais, la peur, etc., si on ne l'a pas accompagné là-dessus, c'est vrai que... Alors, après, la deuxième chose, c'est que lire, c'est très particulier, hein. C'est un, j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu anxiogène. Il y a des enfants qui ont beaucoup plus de mal que d'autres à supporter cette confrontation qui a une expression qui est vais-je comprendre, je ne sais pas. Et certains ont tellement peur de cette incertitude qu'ils préfèrent ne pas tenter le coup.
Delphine Solière.
Mais j'ai 4 enfants et j'ai une fille exactement dans le cas que vous décrivez.
Alors qu'avez-vous envie de dire
en retravaillant Je me suis rendu compte que c'était assez vache comprendre. Et c'est alors elle lit des livres de philosophie. Ouais. Voilà, elle aime beaucoup la philo. Elle aime ce qui est réel et ancré. Non, je pense que on a tous des intelligences un peu multiples. Hein. Il y a ceux qui ont vraiment l'intelligence linguistique et pour qui ça va être facile de lire. Mais si votre auditrice a un enfant qui est très musicien, c'est peut-être lui l'intelligence musicale et c'est peut-être le son qui est important. Et peut-être qu'en écoutant des histoires, peut-être qu'il pourrait retrouver ce plaisir de la fiction.
Nathalie, j'ai peut-être une piste, comme le relève justement Geneviève Patt dans son livre « Laissez-les lire ». Un enfant peut peut-être refuser de lire pour s'opposer de manière inconsciente à l'attente trop forte des adultes. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie ?
Est-ce que ça n'a jamais été exprimé. Je ne l'ai jamais ressenti. Mmh. J'ai toujours fait très attention à mes enfants, à l'un comme à l'autre. Le deuxième, en plus, qui ne lit pas, était un enfant vraiment bouillonnant de vie, heureux, fait pour le bonheur. Enfin, voilà, il voulait aussi faire plaisir, sans doute, mais s'il avait voulu faire plaisir, il l'aurait lu. Et là, il s'est pas opposé, mais il a juste montré que non, c'était pas son truc.
Merci beaucoup, Nathalie.
C'est parfois une question de solitude. Affronter la solitude de la lecture, c'est quelque chose de différent. C'est pourquoi il faut commencer ensemble. C'est-à-dire que ensemble, on est plus fort. Par exemple, quand on lit une histoire à une dizaine d'enfants et qu'on va accueillir les propositions de chacun des 10, où chacun se dit « Ah ben tiens, c'est pas pareil que moi, mais ça passe. » C'est-à-dire, c'est accueilli. Mmh. Et qu'ensuite, le texte va vérifier et voir ce qui est juste et ce qui l'est moins. Cette lecture collective, cette lecture de groupe est quelque chose de rassurant.
Merci beaucoup Nathalie de nous avoir appelé. Thibaut de Saint-Maurice, quelle est votre ordonnance philosophique pour transmettre aux enfants le plaisir de la lecture ?
Eh bien Ali, j'ai envie de vous emmener ce matin dans un cabinet d'un spécialiste de la lecture parce que le problème est difficile comme on le voit depuis le début de notre conversation et puis que je pense qu'on aurait besoin d'un traitement de pointe. Alors qu'est-ce qui rend le problème difficile ? Eh bien on s'en rend compte, on ne peut pas convaincre quelqu'un d'aimer quelque chose. On peut pas le convaincre de trouver agréable telle ou telle chose ou de prendre du plaisir à telle ou telle activité. Le plaisir, ça ne se démontre pas. Vous pouvez, Ali, déployer des trésors d'argumentation et d'explications pour m'expliquer votre goût pour les huîtres, par exemple. Ça ne suffira pas à me convaincre de prendre plaisir à manger des huîtres. Hein, on peut donc être un grand lecteur, prendre beaucoup de plaisir à se plonger dans des grands romans, hein, comme Nathalie, notre auditrice. Eh bien, ça ne suffit pas donc à convaincre les autres. On peut décrire son plaisir, on peut essayer de l'expliquer, on peut montrer l'exemple, mais c'est sans garantie de succès.
Alors Thibaut de Saint-Maurice, quel est ce traitement de pointe que vous nous proposez ce matin ?
Eh bien, c'est un traitement qui est un peu expérimental, mais dont on a déjà un petit peu commencé à parler, et qui a besoin sans doute aussi d'être testé davantage, mais qui est à mon avis prometteur, et il est inspiré par le grand écrivain, mais aussi grand professeur Umberto Eco. Alors on connaît Umberto Eco pour ses romans best-sellers, hein, Le Nom de la Rose, Le Pendule de Foucault par exemple, mais Umberto Eco c'était aussi un grand professeur de l'université de Bologne, où il enseignait donc la sémiologie, la linguistique, un collègue de Alain Bentolila.
Oui.
Alors l'idée est la suivante. Dans son livre intitulé « Lector in fabula », dont la lecture est assez difficile, Umberto Eco donne une grande responsabilité au lecteur. Pour lui, un roman, par exemple, n'existe pas vraiment comme histoire sans le lecteur qui va venir l'activer ou l'actualiser. Le lecteur est presque co-auteur de l'histoire, parce que sa lecture permet de donner tout son sens au texte. Et chaque lecteur devient ainsi un peu un héros, qui en lisant fait exister un sens particulier du texte en fonction de son interprétation. Alors voilà, lire c'est un peu une sorte de jeu de piste dans lequel chaque lecteur va pouvoir repérer des indices, interpréter des signes pour construire le sens de l'histoire qu'il lit. Alors de cette étude et de ces recherches un peu poussées de Umberto Eco, on peut déduire un traitement. Le traitement suivant, peut-être pour donner envie de lire, faut-il lire ensemble ? Parents et enfants, ou enfants et enfants, ou enfants et grands-parents, il faut que la lecture devienne une activité commune. Parce que ainsi, et vous l'avez déjà un peu souligné Alain Bentolila, chaque lecteur peut partager le sens de sa lecture. Alors on peut imaginer plusieurs modes d'administration de ce traitement. Par exemple, on peut lire avec Chacun à son tour. On va lire à voix haute un chapitre et puis chacun va pouvoir commenter la lecture. On peut lire en même temps le même livre, relire Harry Potter, par exemple, quand on ne l'a pas lu avec ses enfants, et discuter ensuite des personnages, de leurs aventures, de leurs réactions. On peut aussi, par exemple, lire et regarder le film ou la série qui aurait été adaptée du livre et ensuite discuter justement des différences d'avec le livre. Bref, les posologies sont nombreuses tant qu'elles permettent de procurer l'effet désirable de la discussion à propos de ce qui est lu et tant que les enfants et les ados découvrent qu'ils sont responsables de leur lecture et que donc la lecture en nourrissant la discussion va aussi construire du lien familial, du lien social, du lien amical. Voilà, le plaisir, ça se démontre pas, c'est pas un objet de raison, mais ça peut s'expérimenter. Et la lecture commune, la lecture collective est un bon moyen de découvrir le plaisir à libération prolongée de la lecture, plaisir de construire le sens d'une histoire dans son esprit et plaisir de partager ce sens et ses variations avec les autres.
Réaction Delphine Solière, Alain Bentolila.
Alors moi je suis complètement d'accord sur le lire ensemble, d'ailleurs j'adore toutes les initiatives qui commencent à se développer comme Silence on lit ou le quart d'heure de lecture où tout le monde s'arrête en même temps. Par exemple dans une école, de la dame de service, la secrétaire, les profs et tout le monde s'arrête et se met à lire, c'est extraordinaire.
Alain Bentolila.
On aurait pu écrire la rubrique ensemble. Non mais je veux dire, moi j'adore Umberto Eco, c'est vraiment, enfin, c'est un vrai plaisir. Et c'est vrai que c'est un linguiste, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'on peut se dire, mais qu'est-ce que font les linguistes là-dedans, finalement, la lecture, c'est, bon, les linguistes, c'est plutôt des langues exotiques, etc. Non, un linguiste, c'est celui qui a une capacité de bien saisir ce que c'est que la langue, comment elle se constitue, à quoi elle sert. Et donc, c'est important de dire qu'Umberto Eco est un vrai linguiste.
Et j'aimerais citer Umberto Eco, celui qui ne lit pas aura vécu une seule vie, celui qui lit aura vécu 5000 ans, la lecture est une immortalité en sens inverse.
Alors, je rebondis juste là-dessus parce que c'est vraiment important et je crois que ça, on peut se discuter sur cette question. Il est des textes, et je fais référence à un ami très, très cher qui s'appelle Serge Boismard. Il est des textes qu'on appelle des textes fondateurs. Des textes fondateurs, ce sont des textes, fables, contes, textes profanes et textes sacrés, qui font émerger une grande question universelle. Et là, avec ces textes-là, à partir de 8-9 ans, on va lire avec ses enfants ces textes-là et faire chercher avec eux ce que ce texte veut dire. Ça peut être par exemple une fable de La Fontaine, hein, le loup et l'agneau. On la lit, on essaye de comprendre ce qui s'est passé, le ruisseau, le truc, le machin, hein, en amont, en aval, tout ce qu'on veut. Et ensuite, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a à la fin? Ah ben, à la fin, il y a écrit « La raison du plus fort est toujours la meilleure ». Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses par rapport à ce texte-là? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce qui se passe, ce que tu connais du monde? Et, si vous voulez, cette capacité de comprendre ensemble et de débattre ensemble est quelque chose... Nous, on fait ça à Bordeaux avec les jeunes détenus en voie de radicalisation. Pardon, c'est vrai, je suis un peu long.
Allez-y,
mais,
allez-y.
Mais si vous voulez, c'est simplement pour dire que dans des conditions extrêmes, où vraiment la tentation du sectarisme est extrêmement forte, cette respiration sur des textes qui touchent à l'universel est quelque chose d'extraordinaire.
La chronique de Thibaut de Saint-Maurice, à voir en vidéo sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Allez, comment transmettez-vous le plaisir de lire à vos enfants? 01 45 24 7000.
Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est l'ennui. Parce que quand je suis tout seul, je peux vite partir en vrille. Je fous rien toute la journée. Je bascule dans la déprime. Et je sais même pas pourquoi. Je fais n'importe quoi. Faudrait voir un psy. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est l'alcool. Ça commence par un verre. Et mes principes s'envolent. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est les autres. Quand j'essaye de rentrer, ils me poussent à la faute. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai.
pour de vrai, pour de vrai, pour de vrai, pour de vrai. S'il te plaît, dis-moi, pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir? S'il te plaît, dis-moi, pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir? Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est le stress. Quand les problèmes arrivent, je bloque et je délaisse le reste. J'arrive plus à penser, donc il faut que je décompresse. Mais je vais beaucoup trop loin, je contrôle plus rien, y a plus de gentillesse. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est la peur. Quand je m'enfonce dans la nuit, cherche la lumière ailleurs. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est l'ego. Il me pousse à séduire, à posséder les choses. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai.
S'il te plaît, dis-moi, pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir? S'il te plaît, dis-moi, pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir?
Dis-moi, dis-moi, dis-moi.
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 Aurel San, interprété Dis-moi.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébéi.
11h moins le quart, comment transmettre le plaisir de lire aux enfants? 01 45 24 7000.
Lire pour le plaisir, c'est l'idée de Silence on lit, une expérience lancée ce matin au collège Cabanis de Brive.
Si vous avez amené de quoi lire, ce qui devrait être le cas, vous le sortez, puis on va essayer d'être attentif à la sonnerie qui nous indiquait tout à l'heure la fin de la lecture.
BD ou roman, les élèves sont libres de lire ce qu'ils veulent, une idée à laquelle ils ont adhéré spontanément.
Ça donne envie de lire, oui, voilà. Ça travaille le cerveau, au lieu d'être sur la technologie.
Je trouve ça bien parce qu'il y en a plein dans la classe qui lisent vraiment très rarement, donc au moins ils lisent au moins 15 minutes par jour.
C'est un quart d'heure où il n'y a pas de bruit du tout dans le collège, c'est même assez impressionnant d'arriver dans ce silence. On sent les bénéfices aussi puisque de moins en moins d'élèves oublient leurs livres. Et puis c'est vrai qu'on a un retour aussi positif des parents qui nous disent qu'à la maison, de temps en temps, le livre est repris et peut être pris le soir aussi. Tout ça, c'est positif, oui, oui, oui.
Extrait d'un reportage de France 3 Nouvelle-Aquitaine en 2019. Vous évoquiez tout à l'heure cette initiative d'Elphine Solière, rédactrice en chef de J'aime lire.
Oui, je trouve ça formidable parce que ça touche tout le monde et ça met tout le monde au même niveau. Ça oblige aussi tout le monde, hein, enfants, éducateurs, à lâcher ses écrans. Parce qu'on l'a pas dit depuis le début, mais...
Mot tabou.
C'est quand même une réalité. Si on regarde une série pendant une heure et demie, c'est un temps, on va pas lire. On fait autre chose. Je dis pas que c'est inintéressant, on apprend. Enfin, il y a plein de bénéfices. Mais voilà, aujourd'hui quand même, nos enfants sont quand même pris par la tentation de l'écran. Nous-mêmes, nous regardons beaucoup. Et voilà, à quel moment on arrête? On arrête d'être hypnotisé pour commencer autre chose et commencer à lire.
Bonjour Marie-France Popo.
Bonjour.
Vous êtes bénévole dans l'association Lire et Faire Lire. Vous êtes la responsable départementale dans les Hauts-de-Seine. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre association?
Alors, l'association Lire et Faire Lire, elle a 20 ans maintenant. Elle a été créée par Alexandre Jardin et Pascal Guéné. L'idée, c'était de donner le goût de la lecture aux enfants et que ça passe par des retraités. Et donc, c'est ce qui se passe encore. Hein. Nous allons dans beaucoup, beaucoup d'écoles maternelles, nous allons en crèche, nous allons un tout petit peu aussi en élémentaire, en cours préparatoire et cours élémentaire en particulier, parce que c'est le moment où justement l'apprentissage de la lecture peut être douloureux, on en parlait tout à l'heure, vous en parliez tout à l'heure, Et le plaisir du livre n'est pas forcément évident pour les enfants. Quelquefois même, ils assimilent le livre à l'obligation scolaire, ce qui est quand même très dommage. Et évidemment, au niveau de la lecture, pardon, excusez-moi, le plaisir de la lecture n'y est pas du tout. Alors nous aimons beaucoup lire aussi en maternelle, c'est-à-dire entre 3 ans et 4 ans et demi, 5 ans, parce que les enfants sont en petits groupes et que nous avons un choix au niveau de la littérature jeunesse qui est absolument extraordinaire et qui nous permet d'aborder avec beaucoup de variété les différentes plages d'imagination et l'augmentation évidemment aussi d'un vocabulaire qui va passer par des répétitions de l'histoire, par exemple, puisqu'on relit beaucoup les histoires que nous passons aux enfants.
Quel est l'impact de vos actions, Marie-France Popo, sur les lecteurs?
Alors, au niveau, l'impact est un peu compliqué à évaluer en termes de quantité, mais au niveau qualitatif, on sait par exemple que les enfants attendent les bénévoles avec beaucoup de joie, sont vraiment très partie prenante, adorent qu'on leur relise des histoires, nous demandent des histoires, et quand on arrive à avoir des lectures pendant les 3 années de maternelle, plus ensuite le cours préparatoire, le cours élémentaire, voire au-delà, les enfants, on s'est rendu compte qu'ils fréquentaient davantage les bibliothèques, qu'ils emmenaient leurs parents, qui sont quelquefois réticents à aller en bibliothèque, qu'ils emmenaient leurs parents en bibliothèque parce qu'on leur explique que les livres que nous leur lisons viennent des bibliothèques. Donc souvent, ils se disent, enfin, c'est pas évidemment la majorité, hein, mais il y en a quand même beaucoup qui vont emmener leurs parents en bibliothèque pour trouver les livres, soit relire des livres qu'ils ont entendus lire par le bénévole, soit aller par exemple vers un auteur qu'ils ont aimé, comme Philippe Corentin ou d'autres très très connus
Alain
de la littérature jeunesse, pour retrouver cet auteur par exemple.
Oui, je connais bien l'association. Et la seule chose, si vous voulez, c'est que je pense qu'il ne suffit pas de lire aux enfants. Les enfants sont inégaux devant la lecture, on le sait. Et par conséquent, il faut avoir une intention et une démarche. Justement, parce qu'ils sont en groupe, il va falloir que chaque intelligence de chaque enfant puisse s'exprimer. Une lecture qui s'arrête à partir au dernier mot du texte et on passe à une autre n'a pas beaucoup d'intérêt. Une vraie lecture, c'est celle, comme vous le disiez tout à l'heure, qui suscite la proposition, la discussion et le débat. Et je pense que j'aime lire. Lire et faire lire. Pourrait vraisemblablement, parce qu'ils ont les conditions qu'il faut pour faire cela.
C'est quoi la machine à lire? Vous êtes le créateur de la machine à lire, c'est quoi? Merci beaucoup à Marie-France Popo d'être intervenue.
La machine à lire, si vous voulez, c'est... Mais si je vous raconte toute l'histoire, on n'aura pas le temps.
Soyez synthétique, monsieur le linguiste.
Difficile. Difficile parce que cette idée m'est venue d'une façon assez extraordinaire, quand j'étais petit, j'étais asthmatique. Et donc, un de mes profs de gym m'a amené sur un terrain, m'a dit, maintenant tu vas courir. J'ai dit, c'est pas possible, je peux pas courir, je m'étouffe tout de suite. Et il m'a dit, on va marcher, puis on va courir quand tu seras fatigué. Si on ne pourra plus, on marchera et on avancera. C'est la machine à lire. La machine à lire, c'est une centaine de livres. On choisit là-dedans et on commence toujours par écouter les premiers chapitres. Les premiers chapitres sont écoutés par l'enfant. À un moment donné, il y a une voix off qui dit « Maintenant, ça va être à toi. » Et on va lui proposer une ou deux pages. Ce sont des contrats qu'il va... Et ces deux ou trois pages, il va les lire. Et à un moment donné, quand il est fatigué, il appuie sur une touche et l'audio va revenir. Le but, c'est 70% de lecture autonome par rapport à la lecture audio. On a eu des résultats assez exceptionnels. Enfin, je précise que ce n'est pas commercialisé, que c'est une machine gratuite, mais qui vraiment a fait rentrer des enfants qui avaient une peur terrible du livre dans une lecture accompagnée, tranquille, sans problème.
Delphine Solière.
C'est quelque chose qu'on peut faire aussi à la maison et même chez des enfants bien assez sûr. Grands. On absolument. Peut continuer à 12 ou 13 ans à lire un chapitre après l'autre à son enfant. Moi, j'ai comme ça aidé un enfant à lire L'Assommoir de Zola, qui était un peu raide. Et il a fallu à un moment donné, dès une lecture croisée, pour que tout d'un coup mon fils me dise, mais en fait c'est l'histoire d'un serial killer, dès qu'il a trop bu, il zigouille, ah, ben voilà, ça y est,
on y est. Alors j'aimerais vous citer Stevenson, Robert Louis Stevenson, dans son essai sur l'art de la fiction. « Toute lecture digne de ce nom doit être absorbante et voluptueuse. Nous devons dévorer le livre que nous lisons, être captivés par lui, arrachés à nous-mêmes, et puis sortir de là, l'esprit en feu, incapable de dormir ou de rassembler ses idées, emporté dans un tourbillon d'images animées. C'est pour ce plaisir-là que, dans la période éclatante et troublée de l'enfance, nous lisons avec tant d'attention et adorons tendrement nos livres. Comment les adultes doivent aider nos enfants à dénicher ce livre dont parle Stevenson, ce livre qui provoque plaisir et enchantement? C'est l'un des rôles des adultes, hein, qu'ils soient professeurs, qu'ils soient parents, qu'ils soient bibliothécaires, qu'ils soient membres d'associations comme celle de Marie-France Popo.
C'est le mettre en contact avec des livres. C'est ce que vous avez raconté au début quand votre maman vous a apporté une caisse de livres. C'est mettre un enfant devant des livres, dans une bibliothèque, dans des librairies, il y a des librairies extraordinaires. Il faut prendre le temps de le faire. Et c'est là où le coup de cœur peut arriver.
Il y a vraiment quelque chose qu'il faut dire parce que les parents le savent, ça. Beaucoup de choses se jouent quand même dans l'apprentissage même de la lecture. Jusqu'ici, on n'en a pas parlé.
Qui est un labeur.
C'est un labeur, mais c'est un labeur dont la légitimité tient aux promesses de plaisir que l'on a. Et il faut bien se dire cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit en pleine bagarre entre les méthodes soi-disant syllabiques et les méthodes soi-disant globales. Ni l'une ni l'autre n'existe d'ailleurs. Il faut simplement dire aux parents, à la fois précision, à la fois ne pas prendre un mot pour un autre, ne pas deviner, et à la fois être capable d'entraîner son enfant à fabriquer du sens. L'école aujourd'hui a bien du mal à associer ces deux choses.
Michel, bonjour, on termine avec vous, vous êtes ancien instituteur.
Oui, je suis un ancien instituteur, j'étais spécialisé dans l'apprentissage de la lecture, voilà, je connais bien Foucambert, Bentolila aussi, puisque j'avais installé dans les lycées, les collèges où j'étais principal, les réseaux d'observatoires de la lecture, voilà.
Le rôle.
Donc je connais bien ces méthodes et je les partage totalement le point de vue de Monsieur Bentolila. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, en tant que principal de collège et en tant que proviseur, puisque j'étais proviseur également, je trouve que ça devient très difficile au moment de l'adolescence, puisque les programmes, les professeurs doivent respecter un certain nombre de programmes et d'écrits et des lectures. Et, excusez-moi ce terme un petit peu familier, mais pour certains adolescents qui déjà avaient des difficultés au niveau de l'école primaire, les textes ne sont pas très... bandant,
Oui. Et d'ailleurs, Michel, pour terminer, parce qu'il nous reste une poignée de secondes, Daniel Pénac dit à propos de cette difficulté que les adolescents ont à lire à un moment de leur vie, ne renoncez pas, nous adultes, ne renoncez pas à chercher ce qui les intéresse et à glisser des livres entre leurs mains. Merci beaucoup, Michel, d'être intervenu. J'aimerais juste citer Arnaud Catherine, l'écrivain, qui nous dit qu'il n'y a qu'une loi valable en littérature comme en amour, la rencontre, le livre qui répond à notre désir, quel que soit ce désir. Je ne connais pas une personne qui, ayant connu l'amour fou, n'a pas envie d'y retourner. C'est pareil en littérature. On termine comme ça. Alain Bentolila, on peut lire avec profit chez First la joie d'apprendre ensemble. 150 activités ludiques pour cultiver le langage et le plaisir de lire. C'est absolument passionnant. Delphine Solière, en couverture du dernier J'aime lire.
Vampirette, notre petite vampirette
et
favorite.
Vous pouvez écouter Oli, des histoires pour les enfants. Le podcast original disponible sur les plateformes de téléchargement et sur l'appli France Inter. Vous pouvez évidemment écouter L'as-tu lu mon petit loup de Denis Chessoux le dimanche à 19h55. À la technique ce matin, Maxime Ingrand et Elisabeth Collet. Demain, on se demande comment Amazon a changé notre vie quotidienne. Avez-vous peur d'Amazon ? 01 45 24 7000.